VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, a rendu aujourd'hui à Bamako un dernier hommage à 7 casques bleus guinéens, dont une femme, tuée le 12 février lors d'une attaque djihadiste contre un camp onusien à Kidal, dans le nord-est du pays. Dans son allocution à cette occasion, le chef de la MINUSMA, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, a souligné que c'était la première fois que la mission de l'ONU sur place déplore la mort d'une consoeur en casque bleu. Il a ajouté que 2 autres femmes du rang comptent également parmi les blessés. Selon M. Anadif, ces sacrifices vont renforcer encore plus la quête d'une paix définitive au Mali par la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix pour la réconciliation dans le pays. Par ailleurs, le Premier ministre français Manuel Valls sera au Mali jeudi et vendredi et au Burkina Faso samedi pour des consultations avec les autorités de ces pays récemment frappés par les attentats et aussi visiter les troupes françaises sur place. Accompagné de son ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, M. Valls va assurer ses interlocuteurs de la permanence du soutien de la France à ces 2 États touchés par les attentats qui ont fait 30 morts le 15 janvier à Ouagadougou et 20 morts à Bamako le 20 novembre 2015. En Guinée, 20 militants de l'opposition arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la mort par balle d'un journaliste ont été inculpés et conduits à la prison de Conakry. Le point avec Bagassi Koura.
D'après Salifou Béavogué, un avocat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, les 20 militants ont été présentés à un juge d'instruction qui les a inculpés et écroués à la prison civile de Conakry. Ils sont accusés d'assassinat, complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires et non-assistance à personne en danger. D'après un responsable du parti, les prévenus sont tous des jeunes volontaires qui assurent le maintien de l'ordre pendant les manifestations politiques. Ils avaient été entendus dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste Eladj Mohamed Diallo le 5 février. Notre confrère a succombé après avoir été blessé par balle dans des heurts devant le siège de l'UFDG. Selou Dalène Diallo, chef de ce parti, leader de l'opposition, et son ancien vice-président Amadou Ouriba sont à couteau tiré. Aboubakar Sila, autre avocat de l'UFDG, accuse les enquêteurs d'orienter leurs recherches dans le camp de Selou alors que son rival Baouri n'est pas inquiété.
Au Sénégal, le président Macky Sall ne réduira pas son mandat en cours, contrairement à sa promesse. Le chef de l'État sénégalais accomplira donc un septennat jusqu'en 2019. Pour les autres réformes annoncées, Macky Sall s'en remet à un référendum. Quelle est la réaction de la classe politique sénégalaise à cette annonce? Le compte-rendu de notre correspondante à Dakar, Sokhna Natambaye.
Presque tous les partis de l'opposition ont refusé de se prononcer après le discours. C'est le cas du PDS, du parti Réumi, dirigé par Idrissa Seck, entre autres. L'un des rares à faire une déclaration, le grand parti, créé par des frondeurs de l'AFP, l'Alliance des Forces de Progrès, parti du président de l'Assemblée nationale. D'après Mamadou Goumbala, la parole du président Macky Sall ne vaut plus rien.
Le président du Sénégal, le gardien de la Constitution, celui qui parle au niveau international et qui décide pour le Sénégal, celui-là, il se réunit. Il a fait un parcours. Macky a dit, je vais faire. S'il veut faire, moi je lui lance un défi. Il n'a qu'à démissionner.
En dehors de la réduction du mandat, d'autres dispositions non susceptibles de révision seront proposées par le chef de l'État pour le texte final devant être soumis au peuple. Autre point important du discours, la date du référendum. Macky Sall.
Je convoquerai le référendum le dimanche 20 mars 2016. Si j'ai préféré cette voie en lieu et place de la voie parlementaire, c'est parce que le référendum reste le meilleur gage d'une appropriation populaire de la réforme.
Sohnana Tambay Dakar, VOA Afrique.
Au Bénin, la suspicion s'invite dans le processus électoral en raison de la distribution chaotique des cartes d'électeurs. Ces cartes sont distribuées au compte-gouttes, au grand mécontentement de la population. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La déception est grande et on pointe d'un doigt accusateur le pouvoir en place.
Il fallait éditer toutes les cartes et les distribuer au même moment dans tous les départements.
Je ne vois pas ce qui peut expliquer qu'on puisse commencer par distribuer des cartes dans une région et pas dans l'autre.
La Cour constitutionnelle avait prévu que les électeurs qui n'auraient pas reçu leur carte à temps se servent des anciennes cartes reçues pour voter. Les secrétaires généraux des confédérations syndicales rejettent cette décision. Ils y voient une porte ouverte à la fraude et à la tricherie.
C'est une ouverture dangereuse, très dangereuse. Des gens auront 2 cartes. la carte Lépi actuelle et l'ancienne carte.
À l'heure actuelle, le mécontentement dans le rang des électeurs s'agrandit. Certains s'organisent en groupe pour des marches vite dispersées par la police. Et pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, le préfet vient de prendre un arrêté interdisant toute marche pacifique ou non. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Centrafrique, intensification de la polémique entre les deux candidats à la présidence alors que le dépouillement du scrutin présidentiel de dimanche dernier continue. Anicet Georges Dolegele accuse aujourd'hui son rival Faustin Archange Touadéra de fraude pendant le second tour de la présidentielle. Hier, c'était le camp Dologele qui était visé suite à des allégations de rencontres secrètes à Bangui entre Anicet Georges Dolegele et un haut responsable de l'Autorité nationale des élections. Les précisions de John Lyndon.
Simplice Sarandji, directeur de campagne du candidat Faustin Archange Touadéra, a accusé hier Julius Ngouadé Baba, rapporteur général de l'ANE, d'avoir rencontré en privé l'autre candidat, Anicet Georges Dolegele. Il a précisé que cette rencontre a eu lieu lundi vers 21h dans une résidence non loin du motel dénommé Katimini à Bangui. La direction de campagne de M. Touadéra condamne ces agissements alors que les résultats du second tour de la présidentielle sont en cours de traitement. L'entourage de M. Dolegele a nié catégoriquement ces accusations et Julius Ngouadé Baba n'était pas joignable hier. L'ANE a commencé hier la proclamation des résultats partiels et provisoires du second tour pour la ville de Bangui. L'Agence nationale des élections a prévenu que le vainqueur ne sera pas connu avant une semaine.
Présidentielle et législative de demain en Ouganda, la Commission électorale nationale a affirmé aujourd'hui s'attendre à ce que le scrutin se déroule calmement. Les présidentielles vont opposer le président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 à 7 autres candidats. La campagne s'est tendue lundi lorsque la police a dispersé sans ménagement des militants du Forum pour le changement démocratique, FDC, de Kizza Besigye, qui a été lui-même brièvement interpellé. Une personne a été tuée dans ces incidents. Plus de 15 millions d'Ougandais sont inscrits sur les listes électorales et appelés à voter dans un des 28 000 bureaux de vote dans le pays pour élire leur président et 290 députés. Au Tchad, le procureur général a annoncé mardi l'interpellation des 5 jeunes gens qui ont séquestré et violé la lycéenne Zahra Mahamat Yosko. Un crime qui a déclenché des manifestations et fait un mort à N'Djamena, la capitale. Au micro de Nathalie Barge, Jida Oumar, secrétaire général du réseau des associations des droits de l'homme du Tchad, promet de s'assurer que les violeurs répondent de leurs actes devant la justice.
La loi, elle est faite pour tous. Et quelque chose qui est sorti, ce n'est plus un secret. Et nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. C'est notre rôle de veiller à ce que la justice soit faite, de veiller également à ce que ces criminels-là puissent purger leur peine. On va faire de telle sorte que ces criminels soient vraiment condamnés normalement. Et il faudrait que ça soit école pour tout le monde pour éviter de me répéter.
Et que pensez-vous de l'action du ministre de la Sécurité qui avait emmené la victime devant les caméras pour qu'elle demande de ne pas manifester?
Écoutez, la manifestation, je crois que c'est un droit écrit même dans notre constitution. Personne n'a le droit d'empêcher à un citoyen tchadien de manifester. S'il suffit qu'il manifeste dans la sérénité, pour éviter de ne pas casser. Et vous savez, quand c'est des manifestations spontanées, et quand il n'y a pas de dirigeants dans la manifestation, il pourra y avoir des bavures. Et ce sont ces bavures-là que nous sommes en train de gérer. Sinon, je pense que la liberté de manifester au Tchad, c'est un acquis et c'est un droit. Et les gens sont en train de manifester.
Jida Oumar, secrétaire général du réseau des associations des droits de l'homme au Tchad. Et puis au Gabon, un ancien ministre gabonais de la fonction publique, Serge Maurice Mabiala, écroué depuis septembre dernier à Libreville pour de présumées malversations portant sur environ 3 milliards de francs CFA, a été libéré hier, selon le quotidien national L'Union. Il avait été arrêté le 16 septembre pour un présumé détournement à l'époque où il était haut fonctionnaire à la Direction générale des impôts DGI, selon le parquet de Libreville. Et pour terminer, en France, Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, a annoncé aujourd'hui qu'elle assurerait jusqu'en novembre la présidence de la conférence sur le climat de l'ONU, COP21, poste quitté par l'ex-chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, en raison de ses nouvelles fonctions au Conseil constitutionnel français. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.